RS Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Metron et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'avais besoin de deux hommes forts. Ils sont là, Timothée Kellard. Bonjour Timothée.
Bonjour Billy.
Co-fondateur d'Ecodev et puis Vincent Ciandra. Bonjour Vincent.
Bonjour.
PDG de Metron. Et nous allons recevoir aujourd'hui Frédéric Granado, directrice de l'engagement sociétal de Sanofi France. Bonjour et bienvenue Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous venez des Vosges.
Oui, tout
à fait. Des petites montagnes, comme on dit.
Alors moi, j'étais plutôt dans la plaine, mais effectivement, je suis des Vosgiennes. Je suis très exactement néo-castrienne.
Neuchâtel.
Voilà.
Voilà,
vous êtes formidable.
Non, mais voilà. Et alors, plus jeune, vous rêviez de raconter, d'informer les gens que nous sommes aujourd'hui autour de vous et ceux qui vous écoutent. Bref, vous vouliez être journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours? Pourquoi vous ne l'êtes pas journaliste?
Parce que je l'ai été. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. En fait, oui, je découpais les journaux. Au grand dam de mes parents, mais voilà, je gardais tout. Et j'aimais bien raconter des histoires. Et j'aimais bien surtout... essayer de comprendre ce qui se passait ailleurs. Donc, c'était vraiment essayer de l'expliquer. Donc, et j'ai eu cette chance de devenir journaliste, mais par une voie un peu détournée.
Voilà, c'était l'argus de l'assurance. Mais avant d'en arriver là, entre l'envie d'être journaliste et faire une maîtrise économique et monétaire à Paris Dauphine, il y a quand même un sacré pas à passer.
Ben oui, mais en fait, je n'avais pas trop le choix. C'est-à-dire que je suis l'aînée de 4 enfants. Et déjà, il y a 30 ans, quand on allait voir des conseillers d'orientation et qu'on leur disait si vous voudriez être journaliste, on dit « Oh là là, c'est bouché !» C'est complètement bouché. Donc moi, je ne voulais pas affoler mes parents. Et donc, j'étais très disciplinée. Donc j'ai décidé de faire une maîtrise d'économie, effectivement, d'économie monétaire à Dauphine, qui m'a donné une excellente formation. Et puis, comme je faisais des petits boulots à côté, en particulier, j'aidais des copines pour être hôtesse dans des salons ou autre, j'ai eu la chance de rencontrer le patron de l'Argus de l'assurance.
Et là, vous êtes devenue journaliste.
Voilà. Et donc, je me suis même formée, en plus, parce qu'écrire écrire des mémoires, c'est pas exactement la même chose que d'écrire des articles. J'ai eu la chance d'être formée pendant 2 ans au Centre de perfectionnement des journalistes rue du Louvre. Et puis, de pouvoir... voyager, puisque ça a été une de mes grandes chances également, c'est que dès que je suis rentrée dans le journal, alors évidemment, l'Argus de l'assurance, on se dit, mon Dieu, bon, l'assurance...
Mais elle ne va pas tout de suite aller sur une plage, voilà. Mais quoique,
puisque j'ai démarré en août et en septembre, j'étais à Monte-Carlo, plongée au milieu de 2500 assureurs et réassureurs. Et effectivement, j'étais au bord de la plage.
En dehors des articles.
Pour écrire.
Oui, mais vous avez aussi écrit un livre sur les grandes nations européennes et les leaders de l'assurance. Donc, il faut quand même y aller. Alors, l'assurance, on ne va pas vite passer, mais...
passionnant.
Oui, mais encore et toujours, l'UAP est devenue AXA, puis Groupama, puis la privation du GAN. Beaucoup d'expérience. Mais je voudrais qu'on arrive à votre poste d'aujourd'hui. En 2012, vous allez rejoindre le groupe Sanofi, car il correspond à vos attentes. Qu'est-ce que vous attendiez?
Bien, en fait, moi, j'ai quitté Groupama fin 2011. J'avais passé quand même plus de 20 ans de ma vie dans l'assurance, qui, comme je le disais, est un sujet passionnant, parce qu'on y entre un peu par hasard, mais on y reste pour
par
une
plaisir.
Raison, je pense, assez simple. C'est que derrière chaque sujet d'assurance, vous avez un sujet de société.
Ouais.
Donc, du coup, c'est vrai que moi, je me suis passionnée. Et mon dernier poste, c'était dans l'assurance, mais avec les agriculteurs, puisque j'étais chez Groupama et j'y suis restée 14 ans. Et donc, j'ai découvert l'agriculture, puisque je ne connaissais absolument pas le milieu agricole. Et je me suis pris un peu de passion, d'ailleurs, pour un certain nombre de causes agricoles. Et puis... Fin 2011, mon patron partant, je me suis dit que c'est peut-être le moment de bouger et d'aller voir d'autres horizons. Et là, j'ai cherché, parce que ça faisait 25 ans que je travaillais. Et en fait, j'avais envie de rester dans la com. J'avais envie revenir dans un groupe plus international que j'avais connu quand j'étais chez AXA. Et j'avais envie de rester dans la santé, puisque ce qu'on ne sait pas, c'est que Groupama est le premier assureur santé individuel en France. J'avais déjà flirté un peu avec les sujets de la santé, sur l'organisation des systèmes de soins. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai retrouvé la directrice de la communication de Sanofi, que je connaissais un peu, et qui m'a proposé un poste, qui était le poste d'image et réputation d'un groupe pharmaceutique. Donc voilà, c'était un petit enjeu, mais qui s'est avéré absolument fabuleux et passionnant.
Alors, la RSE arrive également au programme. Vous avez beaucoup travaillé avec une association que j'aime citer, qui s'appelle Mosaïque, qui est un président extraordinaire et qui ouvre sur l'inclusion. Comment vous avez travaillé, d'un mot, avant que les garçons prennent la parole, en collaboration avec Mosaïque ?
En fait, c'est dans notre plan d'insertion des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Parce que moi, c'est ce dont je m'occupe beaucoup. Hein. Je m'occupe surtout du programme d'engagement sociétal. Et avec Mosaïque RH, en fait, on a un partenariat qui date d'il y a 4-5 ans maintenant. On les a aidés à développer leur plateforme qui s'appelle Diversifier vos talents pour pouvoir poster d'ailleurs nos offres d'emploi sur cette plateforme et aller chercher des jeunes des quartiers. Et là, nous avons en cours avec eux une opération qui s'appelle Place d'Avenir, où comme on n'arrivait pas à avoir suffisamment de jeunes des quartiers, en fait, on est allé les rencontrer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont à Montpellier. Et donc, nos équipes locales sont là-bas pour rencontrer des jeunes des quartiers, les recruter en partie en alternance et puis leur présenter aussi la palette des métiers qui sont ceux de Sanofi, parce qu'ils sont très nombreux et ça bouge très, très vite dans le milieu de la santé. Donc voilà, c'est ainsi qu'on a rencontré Saïd Amouche et son équipe, qui sont effectivement formidables.
Vincent, première question.
Je veux revenir sur les enjeux climatiques. Sanofi, depuis maintenant un certain nombre d'années, a une politique finalement sur l'environnement qui est plutôt structurée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, en fait, Sanofi a lancé déjà depuis 2015 un programme qui s'appelle Planète Mobilisation, donc qui vise effectivement à réduire notre empreinte environnementale. Donc, la première chose, c'est que nous avons décidé d'être neutralité carbone à 2030. Nous avons également tout un plan de réduction des déchets, également sur l'électricité. Par exemple, je peux vous dire qu'en France, aujourd'hui, tous nos sites en électricité fonctionnent en renouvelable. Et puis, on a beaucoup développé également l'économie circulaire. Et nous avons également un programme sur les produits pharmaceutiques dans l'eau, puisque effectivement il y a un suivi du cycle de vie du produit, de la fabrication à son usage. Et je dois dire que le groupe avait démarré bien avant ça, puisque dans les années début des années 2000, le groupe avait décidé déjà de passer de 85% de transport aérien à 85% de transport maritime et fluvial pour l'ensemble de nos médicaments dans le monde. Sanofi intervient sur, on a 100 000 collaborateurs dans le monde, on intervient dans plus de 100 pays. Et donc, c'est quelque chose qui a été réalisé en un peu moins de 15 ans. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le cas. Et c'était tout à fait gagnant sur le plan écologique, sur le plan économique, également sur le plan de la qualité du transport d'un certain nombre de nos médicaments. Donc, effectivement, c'est une préoccupation qui date d'il y a longtemps. Et donc, ce plan, il est revu régulièrement. En France, il s'applique également à l'ensemble de nos sites. On a 18 industriels en France. Parce qu'on ne sait pas, on a plus de 20 000 collaborateurs. Et on a des feuilles de route également dans le domaine aussi d'économie circulaire, mais qui s'appliquent vraiment au plus proche de nos régions. C'est ça qui est intéressant. On a des exemples assez particuliers. Par exemple, à Aramon, on a 10 000 tonnes de déchets végétaux tous les ans. Et donc, en fait, ils sont reconditionnés par des producteurs locaux pour les bienfaits de l'agriculture, justement, je parlais de l'agriculture tout à l'heure, pour le compost. Et ça, c'est des phénomènes, c'est des choses qu'on a lancées, c'est une vraie dynamique qui se met en place au plus proche de nos sites en fonction des besoins qu'ont aussi les communautés locales.
Justement, l'outil industriel aujourd'hui de Sanofi, c'est un peu aujourd'hui la partie la plus importante, je dirais, en termes de... Alors, il y a le transport, etc., sur les émissions, mais aujourd'hui, Sanofi a des usines un petit peu de partout dans le monde. L'enjeu de la digitalisation, des transitions énergétiques, transitions environnementales, c'est un enjeu aujourd'hui fort. Il y a des programmes aujourd'hui de ce qu'on appelle l'industrie du futur appliqués justement à cette transition. Comment aujourd'hui vous structurez cette approche sur l'outil industriel?
Sur l'outil industriel, je vais vous donner un exemple. On va avoir un nouveau site qui va voir le jour donc en région lyonnaise sur la production des vaccins. Ce site sera zéro carbone dès le départ. Et on a, aux États-Unis, on a un site pilote également où on a réduit de plus de 80% l'utilisation de l'eau. Donc, effectivement, tout ce qui va se passer, et la digitalisation permet aussi cela, va nous permettre de réduire de façon extrêmement importante les émissions carbone, va nous permettre également, nous permet déjà de travailler beaucoup sur l'eau, sur les déchets. On n'a plus d'enfouissement, par exemple, sur un ton de nos sites. Hein. Donc, il y a vraiment tout ce travail fait partie de la feuille de route, justement, dont je parlais tout à l'heure, de Planète Mobilisation, qu'on a revu d'ailleurs. La neutralité carbone, on a avancé de 20 ans l'échéance. On l'a annoncé en décembre 2021. On avait une échéance à 2050, on vient de la ramener à 2030. Et c'est aussi parce qu'on a des équipes dédiées. Je veux dire que ce qui est très intéressant dans ce domaine aujourd'hui, c'est qu'on a des profils, des experts extrêmement pointus dans toutes les industries, mais dans la nôtre en particulier, qui nous permettent, grâce à l'innovation, parce qu'on ne le dit pas assez, mais la responsabilité sociétale, c'est un facteur énorme d'innovation, de gagner des années pour justement réduire notre impact environnemental.
Mmh. Timothée.
Oui, donc Frédéric, au-delà du sujet carbone et de la neutralité annoncée en 2030, est-ce que vous pourriez nous présenter les peut-être trois gros enjeux RSE que le groupe Sanofi adresse aujourd'hui ou aborde ?
Alors, nous, on a présenté une feuille de route l'année dernière au niveau du groupe, hein, cette fois-ci, qui s'appelle We Can Do More, donc voilà, qui est complètement liée à la stratégie. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est vraiment de faire que la responsabilité sociétale soit systémique, c'est-à-dire qu'elle fasse partie de l'ensemble des activités. La RSE, c'est un facteur de transformation d'une entreprise. Donc, l'année dernière, on a annoncé une feuille de route avec quatre flagships principaux. Bien évidemment, ils concernent l'accès à la santé, le premier d'entre eux, ce qui est une évidence. C'est-à-dire que nous avons monté une structure qui va permettre aujourd'hui d'apporter dans 40 pays les plus pauvres 30 médicaments essentiels. Et donc, ça devrait se faire à échéance de 10-15 ans. Donc, on est vraiment sur cette lancée-là, c'est-à-dire l'accès à la santé, aller vers les populations, essayer d'aller vers les populations les plus vulnérables et en particulier sur la recherche. Aujourd'hui, on est pratiquement à l'éradication de la polio dans le monde. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Il n'y a que deux pays encore aujourd'hui où on a des personnes atteintes de polio de façon importante. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'éradiquer la maladie du sommeil également, qui est une maladie qui touche beaucoup de populations en Afrique. Et là, nous avons décidé de travailler sur la recherche sur les cancers pédiatriques. Ça, c'est une nouveauté du plan qui a été présenté l'année dernière. Et on a d'ailleurs démarré des recherches assez poussées. Ça, c'est sur la santé. Ensuite, vous avez le pied environnemental, j'y reviendrai pas. Et le troisième pied, qui est quand même extrêmement important, c'est le pied de l'inclusion et de la diversité. Donc, on a décidé qu'à 2025, on aurait une parité totale dans l'ensemble de notre équipe de direction, c'est-à-dire 2000 cadres dans le monde. Deuxièmement, on a décidé aussi de travailler sur la réduction des inégalités. Et c'est pour ça qu'en France, par exemple, on mène ce programme qui est le programme PACTE, dont d'autres entreprises sont parties, mais qui permet de sensibiliser les jeunes des quartiers prioritaires de la ville à nos métiers, de faire beaucoup de mentorat, puisqu'en fait, on croit beaucoup que le mentorat fait la différence, en fait, pour l'accès de ces jeunes à de l'emploi et à des emplois qualifiés, puisque vous le savez peut-être, mais en France, dans les quartiers prioritaires de la ville, il y en a 1500 aujourd'hui, et dans ces 1500 quartiers, le taux de chômage est 2,5 fois plus élevé que dans la moyenne nationale. Donc, il faut véritablement que cela change. Donc, on va travailler sur la sensibilisation de ces jeunes. On a commencé, par exemple, à faire des stages de troisième mixtes chez nous, c'est-à-dire avec des enfants de collaborateurs et des enfants des quartiers prioritaires aussi, pour que, effectivement, cette mixité prenne tout son sens. Et par ailleurs, sur le mentorat, on a multiplié par 4 le nombre de mentors dans l'entreprise, sachant que pour nous, le mentorat, c'est le premier pilier vers une entreprise plus inclusive. C'est-à-dire, si on apprend à mieux se connaître, on aura plus de jeunes en alternance issus des quartiers, et ensuite, on recrutera plus de personnes issues de la diversité dans nos équipes. Donc, voilà, les trois piliers sur lesquels on travaille le plus, ce sont ceux-là. Et sur le troisième, plus particulièrement en ce qui me concerne.
Voilà, merci beaucoup, messieurs, pour vos questions. Un dernier mot avec vous, Frédéric. Nos ancêtres nous ont appris à dire les voyages forment la jeunesse. Aujourd'hui, et vous en êtes la preuve, les voyages nous forment à ouvrir les yeux et à être différents. D'un mot, de 3-4 phrases, parce qu'on est un petit peu en retard, racontez-moi comment le Chili a changé votre vie par rapport aux êtres humains, à la nature et à la vie de tous les jours.
Alors là, en 3-4 mots, c'est
ah
dur.
Bah oui.
Le Chili a bouleversé ma vie parce que j'ai eu un choc. D'abord, j'avais un certain nombre de préconçus sur le Chili quand j'y suis allée, puisque moi, quand j'étais jeune, j'avais une amie chilienne dont la mère avait fui le Chili au moment d'Allende. Et donc, je me retrouvais dans des réunions avec des amis à elle, etc. Et donc, j'avais une idée. La première fois que je suis allée travailler au Chili, j'avais une idée assez arrêtée. Voilà. Et puis, j'ai rencontré des différentes personnes là-bas qui m'ont fait comprendre que, regardant un certain nombre de sujets avec des yeux de Paris, en jugeant ce qui s'était passé sur place, ce n'était pas toujours mieux à faire, même si on pouvait avoir des convictions extrêmement fortes. Et puis, par ailleurs, c'est un pays assez étonnant parce qu'il a 6000 kilomètres. Il est complètement sur l'Atlantique, sur le Pacifique, pardon, et il est complètement ouvert. C'est-à-dire, vous voyez beaucoup de mixité aussi au Chili, une mixité avec des populations qui sont arrivées d'Asie. Et donc, moi, c'est un pays qui m'a effectivement changé. Et j'y suis retournée plusieurs fois.
En mieux, vous dites.
J'espère en mieux, mais, mais en tout cas, j'y suis retournée plusieurs fois. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'y emmener ma fille. Et j'espère pouvoir le faire très, très prochainement.
Mais en tous les cas, merci Frédéric, non seulement pour la carte postale, mais surtout ce qu'il y avait derrière la carte postale. Merci également à Vincent et Timothée. Fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Netron et le groupe EPSA.